Billy, j'ai mis des dîmes après-dits pour vous être hospitalier. Oui, alors là, l'accord a été trouvé en moins de 24 heures. Comme quoi, t'es plus entendu quand t'es dans un avion que sur un tracteur. En même temps, on imagine très mal un contrôleur aérien disperser du caca sur les murs de Roissy. Tiens, d'ailleurs, je me demandais, j'ai pris l'avion dimanche pour rentrer de Marrakech et je me disais, personne ne sait où passe le caca des passagers dans les airs. Est-ce qu'il y a des marins en plein océan qui se prennent une crotte sur de...
Oh,
ah,
non.
Tiens, il y a un Boeing qui vient de passer de nous. Doux et amer, c'est du suédois.
Oh non,
alors,
c'est le petit déj.
Mais est-ce que les Airbus nous vengent des pigeons? Parce que les pigeons nous font caca dessus sur les terrasses. Oui. Ces bâtards de pigeons. Peut-être que les Airbus nous vengent de. Je vous ferai le commandant de bord tout à l'heure.
avec bien. Grand plaisir.
Merci Bernard.
Merci d'être resté avec nous, professeur Sablonnière.
Je vous en prie.
L'œil de Philippe Cavrivière. Alors on vous retrouve à 8h40, hein, je le précise, juste après notre camarade Omar Sy qui sera avec nous. RTL, il est 8h.
RTL Matin, Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal de 8h, c'est avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, cette image incroyable, les ailes du Moulin Rouge qui sont à terre.
Oui, le plus mythique des cabarets parisiens est défiguré. Les ailes se sont effondrées cette nuit. Il n'y a pas de blessés. On est à Pigalle en direct dans un instant. Dans ce journal également, Kenji Girac a maintenu sa version d'un accident hier devant les gendarmes. La guerre à Gaza qui met le feu aux universités américaines. Une centaine d'arrestations à New York. Et puis Venise qui fait payer 5€ l'entrée désormais. Comment contrer les ravages du surtourisme et notamment en France? Ce serait RTL vous explique dans 10 minutes.
À 8h20, un invité exceptionnel, l'acteur préféré des Français Omar Sy. Il se confie dans un livre événement qui sort aujourd'hui. Viens, on se parle. Il est avec nous dans une vingtaine de minutes.
Juste avant le surf de l'info, Cyprien Siné. Cyprien, vous surfez ce matin avec les syndicats pour que les JO sont une aubaine.
Absolument, Philippe en parlait à l'instant. C'est un sacré levier de négociation quand même, vous allez l'entendre.
RTL Matin.
Et donc d'abord ce choc ce matin pour tous les Parisiens du quartier Pigalle, pour les touristes du monde entier également qui s'y pressent chaque jour. Les ailes du Moulin Rouge se sont donc effondrées. On vous retrouve sur place, Hermine Leclèche. Bonjour.
Bonjour.
D'abord décrivez-nous cette scène que vous avez devant les yeux.
Écoutez, c'est très impressionnant. Les deux grandes ailes métalliques du Moulin Rouge jonchent le sol recouvertes d'une grande bâche verte. Je suis devant la façade et dans leur chute, elles ont emporté les trois premières lettres de l'insigne du Moulin Rouge, les lettres M-O-U. On lit donc désormais Lin Rouge. L'incident s'est déroulé un peu avant 2h du matin selon les équipes sur place. Pas de blessés, heureusement, un périmètre de sécurité a été mis en place pour prévenir de nouvelles chutes. Protéger ce bâtiment vieux de plus de 130 ans, institution en quartier. Et là, désormais, une foule est en train de se former devant l'entrée du Moulin Rouge, des riverains qui viennent assister à la scène.
Alors justement, donc les riverains, les Parisiens qui commencent à aller au travail, évidemment, comment est-ce qu'ils réagissent face à cette scène?
Eh bien justement, je suis avec Alain, qui fait partie des nombreux à s'être déplacé pour prendre une photo ce matin. Vous habitez le quartier depuis toujours. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça?
Ah bah c'est complètement impressionnant et choquant, parce que c'est vrai qu'on a toujours été habitué dans le quartier à voir le Moulin Rouge avec des ailes, et puis ce matin on le découvre comme ça tout nu. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel.
Ça aurait pu être dangereux, il s'est tombé un peu avant 2h du matin, en pleine nuit. Il y a du monde à cette heure-ci?
Ah bah d'habitude, en plus il y a quand même la machine en dessous, il y a la boîte de nuit, donc il y a toujours de l'attractivité, il y a des touristes, tout ça et tout. Donc c'est vrai qu'on se demande comment ça a pu se passer surtout. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas eu les explications.
Voilà, donc un grand camion ben est en train de se garer à l'heure où je vous parle et il est en train de récupérer les ailes pour les enlever de la voie publique.
Merci beaucoup. Hermine Leclèche, évidemment le French Cancan, symbole de ce Moulin Rouge, institution des nuits parisiennes, fondée en 1889, c'est la même année que la Tour Eiffel, et 600 000 spectateurs quand même se pressent au Moulin Rouge chaque année.
Il est 8h03, Kenji Girac a donc été auditionné pendant 3 heures hier.
Oui, les médecins avaient donné leur feu vert, et c'est donc depuis son lit d'hôpital à côté de Bordeaux qu'il a été entendu en audition libre, hein, précisons-le. Bonjour Philippe de Maria.
Bonjour Olivier.
Vous suivez l'enquête sur place. D'abord, il persiste et signe, il s'est blessé tout seul.
Oui, Kenji Girac réitère, il s'est bien blessé tout seul en pleine nuit en manipulant un Colt 45, la balle de 11 mm l'a traversé ressortant par le dos. Sa compagne, présente dans la caravane ainsi que sa fille de 3 ans, accourt en entendant l'énorme détonation dans ce lieu clos. C'est la version qu'avait donnée le chanteur juste après avoir été admis à l'hôpital au Lévêque de Pessac. Il confirme cette version aux enquêteurs de la section de recherche de police. Surtout, selon les informations de RTL, les analyses de prélèvements des polices techniques et scientifiques réalisées sur les lieux du drame ne viennent pas contredire pour le moment la version de Kenji Girac. Il s'agirait donc bien d'un accident.
Et alors le procureur de la République de Mont-de-Marsan va donner une conférence de presse cet après-midi à 15h.
Oui, le procureur Janson avait ouvert, on s'en souvient, une information pour tentative d'homicide volontaire. Nous verrons aujourd'hui s'il requalifie les faits ou si l'enquête est close. Des zones d'ombre persistent. Comment la victime s'est-elle blessée? Kenji Girac était-il en pleine possession de ses moyens? Des analyses de sang ont-elles été réalisées à son admission à l'hôpital? Beaucoup de questions. Et puis, l'origine de l'arme, la version de l'achat à un brocanteur est assez, comment dirais-je, fragile. On trouve sur les marchés de vieux tromblons ou des carabines à plomb, plus rarement, des Colt 45 chargés et en bon état de marche.
Merci beaucoup Philippe de Maria, conférence de presse donc à 15h cet après-midi du procureur de la République. La garde à vue de ce jeune Savoyard de 16 ans par les services antiterroristes doit se poursuivre aujourd'hui. Il a été arrêté après avoir exprimé sur les réseaux sociaux une volonté de mourir en martyr en évoquant plusieurs cibles dont le quartier de la Défense pendant les JO. Mais les enquêteurs invitent à la prudence et cherchent encore à vérifier à la fois la réalité du projet et le niveau de préparation puisqu'aucun explosif par exemple n'a été retrouvé chez ses parents. 75% des vols annulés aujourd'hui à Orly. Le trafic est très perturbé dans tous les aéroports du pays, même si le principal syndicat des aiguilleurs du ciel a levé son appel à la grève. Mais trop tard hier pour pouvoir changer les plans de vol.
Emmanuel Macron, lui, entre dans la danse à un mois et demi maintenant des européennes.
Qui ont lieu le 9 juin, donc on le rappelle. Le président va prononcer un discours d'une heure et demie à la Sorbonne à 11h ce matin, Arthur Bélier.
Oui, après l'Europe souveraine lors de son discours de la Sorbonne 2017, pour sa Sorbonne 2024, Emmanuel Macron défendra une Europe puissance. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette Europe puissance? L'Élysée a encore du mal à développer, mais promet des propositions ambitieuses pour influer sur les décisions de la prochaine Commission européenne. Sur l'estrade, Emmanuel Macron compte aussi défendre un bilan européen qu'il estime influencé par son premier passage à la Sorbonne il y a 7 ans. Les 800 milliards du plan de relance post-Covid, le soutien à l'Ukraine, le pacte asile-immigration ou le pacte vert. Sur tous ces sujets, Emmanuel Macron considère qu'il a été moteur parmi les dirigeants européens.
Alors Arthur, les oppositions dénoncent une intrusion politicienne, même si l'Élysée le jure, il ne fait pas campagne bien sûr.
Ah non, ne dites surtout pas ça à son équipe. C'est un moment normal de la vie des institutions européennes, martèle son entourage, certainement pas un meeting. Mais les alliés d'Emmanuel Macron espèrent bien que ce discours va relancer la dynamique du camp présidentiel, miné par des mauvais sondages. Sa tête de liste, Valérie Ayer, le reconnaît elle-même. Hein. Ce discours nourrira son programme dévoilé dans les prochaines semaines. En tout cas, leurs adversaires, eux, sont dans les starting blocks pour en faire un objet de campagne. Le Rassemblement National, les Insoumis, les Républicains ont déjà donner rendez-vous aux journalistes cet après-midi pour dire tout le mal qu'ils pensent de ce discours.
Merci beaucoup Arthur Bélier. Et puis à propos d'Europe, les députés ont approuvé hier une révision de la PAC, la politique agricole commune, pour alléger certaines règles environnementales, pour supprimer par exemple les contrôles dans les exploitations de moins de 10 hectares. Les Verts dénoncent ce texte.
Casino va devoir réduire la voilure, mais on ne connaît pas encore l'ampleur du plan social à venir. Hein.
De 1300 à 3200 postes supprimés, estimation donc du simple au double. Et en fonction des semaines qui viennent, puisque Casino n'a pas pu vendre tous les magasins qu'il souhaitait à Carrefour, Auchan ou Intermarché, et cherche donc des repreneurs potentiels pour d'autres grandes surfaces et des entrepôts. Voilà pourquoi il y a cette incertitude difficile à vivre pour les salariés que vous avez rencontrés hier à Saint-Étienne au siège du groupe, Frédéric Perruche.
À 37 ans, Karine Fayolle a fait toute sa carrière chez Casino, mais elle craint aujourd'hui de figurer dans la liste des 550 salariés licenciés du siège social.
Moi, sur le plan personnel, oui, étant célibataire sans enfant, je me doute qu'avec les critères sociaux qui rentrent en jeu, je ne serai pas dans les critères principaux pour être maintenue, mais c'est une page de vie qui va se tourner, on va voir dans l'avenir ce que ça donne. Voilà, est-ce que je retrouverai dans un secteur similaire ou faire autre chose? Donc c'est des questions qui restent un peu en suspens.
D'autres, au contraire, sont plutôt soulagés. Le siège historique de Casino reste à Saint-Étienne et 1000 emplois devraient être sauvés.
Oui, c'est plutôt bien pour la ville de Saint-Étienne. C'est déjà une bonne annonce. Après, on attend de savoir la suite.
On y croit encore ?
Oui, pour l'instant, on essaye jusqu'au bout, au maximum, de faire au mieux pour nos magasins.
C'est plutôt correct qu'il y ait au moins 1000 personnes qui restent ?
Oui, bah oui, finalement, ça fait une personne sur trois de licenciés. Si c'est vraiment ce qui va se passer, c'est plutôt positif. Ouais.
Vous craignez pire que ça. Mmh. La direction précisera les modalités des services concernés et des postes supprimés début mai.
Reportage à Saint-Étienne de Frédéric Perruche.
Dans un instant sur RTL, les Français pas assez préparés aux catastrophes climatiques. La Croix-Rouge fait des propositions.
Et puis nous partirons à l'université colombienne de New York où des manifestants contre la guerre de Gaza ont été arrêtés.
Il est 8h09.
A tout de suite.
RTL Matin. Chez BYD, nous croyons en vos rêves, le rêve d'atteindre vos objectifs. Pour cela, BYD développe depuis 30 ans son expertise dans l'innovation pour vous proposer une mobilité décarbonée en toute sécurité avec des véhicules électriques nouvelle génération. Chez BYD, nous sommes l'harmonie entre technologie, design et exigence. Build your dreams. Donnez vie à vos rêves. Retrouvez votre concessionnaire BYD sur byd.com/fr. Pensez à covoiturer.
Grand frais.
Ouais, Francky, bon, je vais pas pouvoir venir te chercher à la gare, hein. Là, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont une burrata ultra crémeuse, parfait pour ma salade de tomates. Donc, attends-moi un peu, t'inquiète, j'en ai pour 4 heures max. Hein.
Chez Grand Frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la burrata des pouilles de 150 grammes est à seulement 2,49€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais!
Le meilleur marché.
Soit 16,60€ le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
RTL Matin.
RTL 8h10, la suite du journal d'Olivier Bois. Selon la Croix-Rouge, les Français ne sont pas assez préparés aux catastrophes climatiques.
Et pourtant, désormais, on l'a vu hein, ces derniers mois, on est tous concernés par un risque ou par un autre, tempête, forte chaleur ou inondation par exemple. La Croix-Rouge va faire 10 propositions aujourd'hui pour que les Français soient plus préparés, plus autonomes également, parce qu'on peut se retrouver isolé en cas de souci majeur, Virginie Garin.
Oui, lors d'une catastrophe naturelle, les secours n'arrivent pas forcément tout de suite. Alors la Croix-Rouge propose de former beaucoup plus de Français aux gestes qui sauvent. Seuls 40% le sont pour l'instant. Elle propose de passer à 80%, comme en Allemagne, et elle conseille à tous les Français de préparer un sac d'urgence. Philippe Dacosta préside la Croix-Rouge française.
Le sac d'urgence, c'est une radio avec des piles neuves, c'est une lampe de poche de préférence avec une manivelle, c'est de la nourriture non périssable, c'est de l'eau, une trousse de secours.
Il faut aussi améliorer les systèmes d'alerte en cas de crise.
Près de 20% des personnes âgées et des seniors ne disposent pas de portable et donc ont besoin d'être identifiés préalablement si on veut intervenir et leur porter secours.
Ainsi, les communes devraient toutes s'équiper de registres qui recensent les personnes fragiles, désigner aussi des chefs de file pour coordonner les secours. La Croix-Rouge propose d'ailleurs une journée national d'exercice chaque année. La première serait le 13 octobre prochain.
Merci Virginie Garin. En Ukraine, les armes américaines vont bientôt arriver. Premier départ de voitures, de munitions dans les airs qui viennent, a dit Joe Biden. Et il y a urgence. Un haut conseiller à Washington juge cette nuit possible des avancées russes au cours des prochaines semaines.
Les États-Unis où la guerre à Gaza met le feu dans certaines universités américaines.
Et parmi les plus prestigieuses, Harvard, Yale ou encore Columbia à New York, les étudiants anti-guerre ont sorti là-bas les tentes. Sur le campus, la tension est très forte. Une élue républicaine a parlé de berceau de l'antisémitisme en désignant ses étudiants. Et une centaine d'entre eux ont même été arrêtés avant d'être relâchés. Reportage de Karine Hauteur.
Difficile de croire que la police ait vu une menace en Iris Seong, 20 ans, une étudiante juive de Columbia. Le regard doux, la voix posée, Iris a été arrêtée jeudi avec une centaine d'autres étudiants, puis suspendue de l'université le lendemain. Il réclame depuis plusieurs mois à Columbia de stopper ses investissements en Israël, ainsi que ses formations avec une université de Tel Aviv.
On est dans la continuité des manifestations de 68 et aussi des manifestations contre l'apartheid qui ont eu lieu ici à Columbia. En tant qu'université, Columbia a le passif d'être du mauvais côté de l'histoire, mais les étudiants sont eux toujours du bon côté. Nous manifestons contre cette université parce qu'elle soutient le génocide.
Sur le campus, les tentes sont occupées jour et nuit, le repas de la fête juive est partagé. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, est lui venu de Washington. Pas question de laisser cet antisémitisme grandir, selon lui.
Je suis ici pour demander à la présidente de l'université de démissionner si elle ne parvient pas à ramener de l'ordre à ce chaos immédiatement.
Après son passage hier soir, les étudiants ont accepté de réduire leur campement, mais ils se sont félicités de la globalisation du mouvement. Ils ont même retweeté les premières tentes plantées à Sciences Po Paris.
Reportage de Karine Hauteur aux États-Unis pour RTL. Le PSG n'est pas encore champion. Victoire 4-1 hier à Lorient, mais Monaco a battu Lille 1-0 dans le même temps. Et l'OM a concédé le match nul de partout face à Nice.
Merci beaucoup Olivier Bois. Il est 8h13, bientôt 14. Louis Baudin, un petit coup de météo. Non, remarquez, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de savoir.
Oui, c'est ça, oui. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de vous dire ce temps encore très nuageux qui va persister dans la plupart des régions. On a quelques éclaircies là dans le sud de l'Île-de-France, mais ça ne va pas durer. Là aussi, nous aurons des passages nuageux accompagnés de quelques pluies, plus un peu plus soutenues entre les Pyrénées et l'Auvergne cet après-midi. C'est là où elles sont les plus fréquentes. De la neige dans les Pyrénées au-delà de 1600 mètres, puis celle-là un peu plus dégagée près de la Méditerranée, mais il faut le dire vite, avec encore un peu de mistral et de tramontane. Les températures, on n'était encore pas loin des
gelé ce matin dans la plupart des régions. Cet après-midi, nous serons entre 11 et 14 degrés dans la moitié nord. On gagne 2 degrés par rapport hier, mais ça n'est toujours pas de saison. 14 à 18 degrés dans la moitié sud.
Bon, le soleil vient de rentrer dans nos studios puisque Omar Sy vient d'arriver. Il sera avec nous dans quelques instants avec Elsa Vigoureux pour parler de leur livre qui vient de paraître. Viens, on se parle et vous, on vous retrouve pour la météo à 7 jours. Il sera donc 8h30.
RTL vous explique.
Mais d'abord, comme chaque matin, après le journal de 8h, on s'arrête sur un point de l'actualité. Et aujourd'hui, RTL vous explique le surtourisme. Pourquoi ? On en parlait dans les journaux, hein, parce qu'à partir d'aujourd'hui, la ville de Venise en Italie impose un droit d'entrée, 5 euros pour tenter d'endiguer ce fléau. Bonjour Armel Lévy.
Bonjour.
D'abord, c'est quoi le surtourisme ?
Bien, c'est quand une destination est victime de son succès. Il y a un trop-plein de visiteurs, au point qu'elle en souffre sur le plan environnemental, ça détériore le site. En plus, on n'en garde pas un bon souvenir tellement il y a de monde, et les habitants autour sont excédés. En plus, la surpopulation fait grimper les prix.
Bon, j'imagine qu'en France, on est aussi concerné.
Oui, parce qu'en France, 80% de l'activité touristique est concentrée sur 20% de notre territoire. Mais au ministère du Tourisme, à Bercy, on rejette ce mot de surtourisme. On préfère parler de pic de fréquentation, parce qu'on les veut, ces touristes. En tant que première destination mondiale, on n'en a jamais trop. Nos 100 millions de visiteurs étrangers l'an dernier ont rapporté 63 milliards d'euros à la France, un record. Et avec les JO, on attend plus de 15 millions de touristes à Paris. Et tout l'enjeu, c'est qu'on ne se retrouve pas tous cet été au même endroit en même temps.
Bon, il y a quand même des normes à respecter, non ?
Non, il n'y a pas de règles harmonisées. Chaque site naturel, chaque musée, chaque ville est libre de définir ou pas ses propres limites. Les calanques de Marseille, Porquerolles ou l'île de Bréhat ont instauré des quotas. L'île bretonne a limité à 4700 le nombre de visiteurs par jour l'été dernier. Parfois, il y en avait 6000 pour préserver la tranquillité des habitants et la biodiversité. Et aujourd'hui, à Étretat, un collectif demande d'instaurer une jauge de 5000 véhicules par jour sur leur parking pour préserver le site des falaises.
Et dernière question, Armel, est-ce qu'il existe d'autres moyens pour réguler ces flux ?
Oui, par exemple, le Mont-Saint-Michel, submergé par une foule de 32 000 visiteurs en une seule matinée l'été dernier. C'était en fait le jeudi de l'Ascension. Maintenant, prévient en amont sur les panneaux d'autoroute si le site affiche complet pour vous diriger vers d'autres lieux moins fréquentés. Même chose sur le site internet de la Dune du Pilat. Maintenant, vous pouvez voir la fréquentation des parkings et on vous propose d'autres alternatives comme écouter des contes au coucher du soleil pour éviter la foule de la journée et découvrir le site autrement. Ou encore, pour visiter le massif de l'Estérel, maintenant, on vous invite à prendre une navette électrique pour préserver l'esprit des lieux. Cet été, vous verrez fleurir des affiches devant les monuments nationaux relayés par des influenceurs sur les réseaux sociaux pour nous inciter à ne pas tous nous rendre sur un site touristique le dimanche après-midi, mais d'y aller plutôt le lundi matin quand il y a moins de monde.
C'est du bon sens. Faut-il encore le pouvoir,
j'ai envie de dire.
Merci beaucoup, Armel Lévy.
Bonjour Cyprien Sidi.
Bonjour à tous.
Vous surfez ce matin avec nos syndicats pour qui les Jeux Olympiques sont une forme d'aubaine.
Ah bah plutôt oui. Tenez, hier vous annonciez Yves.
Une grève massive des contrôleurs aériens se profile pour demain.
Et puis bizarrement, quelques heures plus tard...
Le syndicat majoritaire chez les contrôleurs aériens français lève son préavis de grève.
Bon alors il y a des perturbations quand même, mais forcément, on a les Jeux en perspective. Prenez les policiers. Bah ils menacent.
Sans prime à hauteur de notre investissement, les Jeux Olympiques ce sera... Les Jeux Olympiques, ce sera...
Sans nous ! Bon, alors, et c'est vrai que des Jeux sans police, c'est pas hyper pratique. Résultat...
Pour les policiers, j'ai donc décidé une prime plus élevée, à partir de 1000 euros au minimum pour tous les agents, dont la prise de congé aura été limitée. Jusqu'à 1600 euros pour les agents des départements où se déroulent les épreuves olympiques. 1900 euros pour les policiers d'Île-de-France.
Du coup, à la SNCF, ils sont malins, ils se disent...
Un préavis de grève a été déposé entre le mois de février et le mois de septembre.
Ah oui, et c'est pas pratique des Jeux sans transport. Résultat, avant-hier...
Ils devaient travailler 2 ans de plus avec la réforme des retraites. Mais avec ce nouvel accord, ce sera seulement 1 an de plus, voire moins.
Ouais, du coup, il y a les hôpitaux de Paris aussi, la PHP.
Travailleurs dans le milieu hospitalier public pourraient se mettre en grève dans la période du 15 avril au 15 septembre 2024.
Ouais, bon, c'est pas pratique des Jeux sans hôpitaux. Du coup, pendant les Jeux...
2500 euros brut par semaine pour les médecins. 1200 euros brut par semaine pour les infirmiers. 800 euros brut par semaine pour les aides-soignants.
Allez, bon, après, pour la fonction publique dans son ensemble, il y a le ministre Stanislas Guérini, bah, il a essayé quand même. Hein.
Il y aura un dispositif de prime de 500, de 1000, de 1500 euros.
Ouais, mais alors là, c'est pas encore OK, olé pour tout le monde, hein, du coup. Autant vous dire que si les jeux, on risque d'arriver à de nouvelles revendications quand même.
Effectivement, on va suivre tout ça de près. Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir. RTL, bonsoir, c'est à partir de 18h.
Actu très riche ce soir, discours du président, conférence du procureur sur Kenji Girac. Et avec nous en studio, l'auteur des BD qui cartonne et que les jeunes s'arrachent, Mortel Adèle.
Ah oui,
ah oui, une sur cinq, une BD sur cinq en France, c'est Mortel Adèle.
Il est 8h19, c'est donc l'événement de notre matinale. Omar Sy est avec nous dans un instant. L'acteur est très rare dans les médias. Il a choisi RTL pour nous parler de son livre qui sort aujourd'hui. Livre coécrit avec notre consoeur Elsa Vigoureux. Viens, on se parle, c'est le titre.
RTL Matin, Yves Calvi, Amandine Bégaud.
C'est si bon.
Limousine.
À l'aubergine.
À la bénédictine.
À la poitevine.
À la girondine.
En mousseline.
Chez Micheline.
En mandarine.
Façon Justine.
En gélatine.
À la cantine.
En tartine.
En tagine.
En verrine.
So bling bling.
En smoking.
En jogging.
Chez la voisine.
De la grande cuisine.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Oui, oui.
Carrefour.
Quand vous me dites
« La TVA remboursée sur les téléviseurs ?»
Eh oui, sur tous les téléviseurs Samsung d'une valeur de 699 euros ou plus, le montant de la TVA est remboursé sur votre carte Carrefour, soit 16,66% environ du prix TTC. Et c'est jusqu'au 29 avril dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
7h, 9h.
RTL Matin. Il est 8h21, bonjour Omar Sy.
Bonjour Yves.
Merci beaucoup de nous rejoindre ce matin sur RTL, ce d'autant plus que vous avez choisi notre radio pour découvrir en exclusivité ce livre à deux voix avec ma consoeur Elsa Vigoureux qui est à vos côtés. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Viens, on se parle. Tout est dans le titre. Paraît aujourd'hui donc aux éditions Albin Michel. Soyons clairs, c'est un événement. Et je salue Stéphane Boutsock, notre spécialiste cinéma.
Bonjour.
Qui va nous accompagner dans cette aventure. Ôtez-moi un doute. Vous êtes heureux quand vous revenez dans votre pays ?
Bien sûr. Bien sûr, je suis heureux. Pourquoi je devrais être malheureux ?
Bah non, mais parce qu'on se dit, il est parti loin, finalement, il est peut-être bien sans nous.
Oui, je peux être bien sans vous, ça c'est vrai, je peux être bien sans vous. Non, mais non, j'aime bien revenir. Après, il faut dire la vérité, c'est une ambiance particulière, mais c'est pas une ambiance qui est liée au pays. C'est une ambiance un peu mondiale, on va dire. C'est un peu compliqué en ce moment, mais pour le monde entier, donc c'est pas forcément lié à la France.
Alors venons-en au livre, hein. tout au long de ces 284 pages. Vous vous racontez avec l'honnêteté, mais aussi la grande pudeur que l'on vous connaît. D'ailleurs, vous le dites, Elsa, faire un livre, pourquoi je ferais ça ? Eh bien, je vous pose la question, puisque ça a été à l'origine aussi de votre curiosité.
Bah, l'idée de faire un livre sur Omar Sy, c'était mon idée en tant que journaliste de m'intéresser à une personne vraiment, une personnalité iconique. Tout ce qu'il représente aujourd'hui en France, la popularité qui est la sienne, qui est quand même énorme, et en même temps... Parfois, tous les ennuis qu'on vient lui chercher sont toujours des raisons jamais très fondées. Et puis, tout ce qu'il dégage, tout ce que son parcours raconte, voilà.
Omar, vous êtes heureux du résultat. Je veux dire, vous êtes content de nous parler, en quelque sorte. Oui. Un livre, c'est quelqu'un qui nous parle à l'oreille.
Oui, c'est vrai que je suis content. En fait, en vrai, je suis content de me relire. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en fait, on se parle, et en fait, c'est vrai que c'est assez intime, parce que c'est le petit vélo qui tourne dans ma tête, qui est seulement dans ma tête, en fait, et qu'à un moment donné, avec Elsa, il sort, et du coup, je peux le voir,
et
le regarder, avoir un petit recul. Et ça, c'est assez intéressant. C'est un peu une psychanalyse, quoi. Donc ça fait du bien. Je me pose un peu maintenant.
Alors, docteur Elsa Vigoureux,
c'est ça, exactement ça.
c'est que vous êtes patiente, dans tous les sens du terme, parce qu'alors, il a fallu s'adapter.
Je ne sais pas si ce n'est pas lui le plus patient des deux.
C'est vrai, mais quand même, au rythme, à la disponibilité, et puis à l'envie de votre objet d'étude et de curiosité, ça n'a pas toujours été facile.
Non, Omar, voilà. C'est quelqu'un qui échappe pas mal, en fait, qui garde bien le contrôle et qui est... qui s'attrape pas facilement, ouais, en effet, ça n'a pas été facile. Mais après, c'est vrai qu'il y a ce que dit Omar, là, cette espèce de jeu de miroir qui est très intéressant. On apprend beaucoup de choses hein, au contact d'Omar Sy. C'est quand même une personnalité... Moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué, enfin, qui m'ont...
Dites-nous.
Bah, il est supérieurement intelligent, voilà, je le dis à tout le monde. Omar Sy est supérieurement intelligent, vraiment. Et puis, il a vraiment, en toute occasion, partout, tout le temps, le sens du récit. En fait, tout est récit pour Omar. Je dis ça parce que, par exemple, quand il a relu le livre, moi, j'avais un peu peur qu'il s'intéresse, enfin, qu'il ait du mal à se détacher du fond, puisque ça le concerne lui directement et qu'il n'ait pas la distance nécessaire pour la relecture. Et en fait, il a eu une relecture éditoriale quasiment, où il me disait là, par exemple, pourquoi tu mets une virgule? Là, t'as dit ça, donc c'est pas la peine de le remettre. Laisse le truc, c'est mieux quand c'est suggestif. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surprise. Qui m'a surprise dans l'écriture, mais c'est un professionnel du récit, vraiment.
Ben, il est finaud, notre Omar. Stéphane Boutsock.
Il y a des choses passionnantes et surprenantes dans le livre, notamment, Omar, votre rapport à la solitude. À la fois, elle vous pèse quand vous êtes loin de votre femme et de vos enfants, et en même temps, vous nous dites, à travers les lignes et l'écriture d'Elsa, « j'en ai besoin pour créer ».
Ouais, c'est par là que ça se passe en fait. Quand on a de l'interaction, quand il y a du monde, c'est compliqué de s'échapper. Et la création, pour moi, c'est une escapade en fait. L'imaginaire, tout ça, ça se provoque dans un truc où on s'en va. Et donc, quand on est seul, on voyage plus facilement. On est plus l'aventure est plus simple, plus accessible.
La famille, parlons-en, parce que celle de vos parents à Trappes en région parisienne, celle que vous avez fondée, sont au cœur de ce livre. C'est votre raison de vivre, Omar.
La famille?
Oui.
Ouais, c'est même plus que ça. C'est pour ça que je vis, en fait. C'est-à-dire que les parents, sans eux, ben, y a pas d'Omar. Ça, c'est scientifique.
En effet.
Et après, c'est un socle, quoi. Je sais pas comment dire. Je sais même pas comment décrire ça. Évidemment que la famille, c'est la base et tout le reste se bâtit dessus, en fait.
Stéphane. Et ça vous a d'ailleurs aidé à passer le cap de la surmédiatisation. On est après Intouchable en 2011. Vous décidez de partir aux États-Unis, d'abord pour quelques mois, puis finalement vous allez vous y installer. Vous dites dans le livre, je voulais redevenir le papa anonyme qui peut aller à la kermesse de l'école. Ça veut dire qu'il y avait quand même cette soif aussi de redevenir un tout petit peu anonyme.
Ils font des kermesses aux États-Unis?
Bien sûr, et des très bien. Ils ont des trucs super, ils font des jeux qu'on fait pas, nous. Le truc qu'on voit, on a l'impression que c'est que dans les films. Le truc où il y a un mec assis et tu jettes une balle, il tombe dans l'eau. Oui. On dit c'est pour les films.
Et ça existe vraiment.
Je vous jure qu'ils le font. Je vous donne un scoop là sur RTL ce matin. Ils le font en vrai. Non, mais c'est important. C'est vrai qu'il y a un moment qui m'a beaucoup marqué. Après Intouchable, j'amène mon fils à l'école. Donc mon fils aîné qui s'appelle Tidiane, je l'amène à l'école et j'entends, ah tiens, c'est le fils d'Omar. Or qu'avant ça, j'étais le père de Tidiane. Et ça a été un... Je me suis dit, merde, comment je vais faire, en fait? Il y a un moment donné, il va forcément me détester pour ça. S'il peut même pas avoir de prénom, quoi. Donc ça m'a fait flipper.
Et puis vous avez pris une dimension, alors en France évidemment, mais aussi là-bas, vous racontez un moment, vous êtes contacté par Michelle Obama, qui veut vous rencontrer, et vous dites à Elsa, on dirait pas un sketch, ma vie.
Mais c'est vrai, mais même là, ce qui se passe ce matin, Elsa, celle qui sur moi, on dirait le Truman Show, un peu. Qui s'y la croit.
Alors il y a aussi le revers de la médaille, hein. Votre parole est scrutée, elle est disséquée, elle est critiquée, parfois durement, comme lorsque vous avez demandé justice après la mort d'Adama Traoré en 2016, ou du jeune Naël en 2023. Avant, ceux qui ne me supportaient pas se taisaient, confiez-vous Elsa. C'est une des phrases clés de ce livre, je crois.
Oui, c'est vrai. C'est que j'ai pas connu la médiatisation et tout ça avec Intouchable. C'était bien avant. Il y avait Canal, il y avait tout ça. Mais les gens qui me supportaient pas, bon, c'était je les entendais pas. Et pourtant, je sais qu'ils étaient là. Oui. Mais donc après, ils se sont mis à s'exprimer. Voilà.
Et Elsa Vigoureux, comment on aborde un personnage de ce type? Je devrais dire un chaleureux ultra pudique qui a par ailleurs besoin de se protéger. Là, je sais pas facile.
Comment on l'aborde avec des questions qu'il explose dans l'air. On l'aborde sans cadre. Enfin, moi, dans le livre, en tout cas, c'était un peu. Au début, je suis venue avec des questions préparées. J'ai vu que ça marchait pas du tout.
Non.
Bah non, Omar, il est très fort pour ça, en fait. Si les questions sont préparées, bah je fais face à un acteur qui est dans son rôle. Donc en fait, c'était pas préparé. Et puis c'était un petit peu au gré des moments, parce qu'il fonctionne comme ça par moment. Mais je voulais dire aussi sur la solitude que moi j'ai vu Omar dans des situations où il y avait plein de gens autour de lui et je le trouve, et c'est sa force, seul au milieu des autres aussi. Donc là vous parlez par exemple de Adama Traoré, de Naël, sur toutes ces histoires-là je trouve aussi qu'il est tranquille, c'est-à-dire qu'il émet une opinion qui est propre et personnelle, mais ça va pas au-delà en fait, c'est pas des jugements, c'est des sentiments et qui lui appartiennent que à lui.
Stéphane. Alors, le livre aborde vraiment quasiment tous les sujets, le succès, le cinéma, la famille, l'enfance, la vie entre la France, les États-Unis, le Sénégal, votre passion pour la moto que j'ai découverte, et puis les chiens. En revanche, il y a deux sujets, Elsa, où vous avez eu du mal à l'embarquer, le sexe et l'argent.
Ouais.
La preuve. Vous avez entendu, je vais me faire plaisir.
Service après-vente, bonjour.
Didou. Oui. Tu viens plus au soirée, là?
Ouais, non, je peux pas en ce moment.
Mais t'as eu tort, hein?
Quoi?
On a fait une soirée pharaon.
Ah bon?
Ah oui, putain, c'est monté en pyramide. On s'est assis dessus.
Ben alors, Doudou? On est pudique?
On a du mal à y aller.
Bien sûr, ouais, bah oui. Non, mais là, c'est dis donc. Il y a le masque, justement. Il y a le masque, justement, c'est toute la différence. C'est que c'est quand c'est personnel, quand c'est l'intime, c'est autre chose. Parce que je le dis dans le livre aussi, c'est qu'à un moment donné, ces sujets-là sont tellement des sujets qui sont... les gens sont carnivores avec ce truc-là, ils en demandent, et c'est hyper malsain l'intérêt de ce truc-là, je trouve, aujourd'hui dans notre société, et ça conduit, je trouve, à des choses qui sont pas bonnes, c'est-à-dire la comparaison, donc la jalousie, l'envie, tout ça, je trouve que c'est... J'ai pas envie de nourrir ça, en fait. Il y a des choses dans notre société qui sont très très mal gérées, et j'ai pas envie de mettre de l'eau dans ce moulin là quoi.
Omar, merci d'être venu nous voir.
C'est déjà fini?
Non, justement, on a une petite surprise pour vous dans un instant, mais c'est une excellente habitude, on va la garder. J'en connais une qui sera contente de vous interviewer. Elle est à votre droite.
J'aimerais un jour me voir. Bah, 7h40,
ouais. 7h40, c'est tôt hein, quand même. Ouais, déjà là, c'est un effort. Hein. On essaiera.
Oui, il est capable de ça. Elsa Vigoureux, merci d'avoir confessé le pudique qu'on a en face de nous. Viens, on se parle. Votre travail commun paraît aujourd'hui aux éditions Albin Michel. Vous restez avec nous parce que dans quelques instants, vous serez dans l'œil de Philippe Cavrivière. Il a des choses à vous dire.
Ok.
À tout de suite.
RTL Matin, 7h, 9h.
Peugeot. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Et jusqu'au 30 avril, Peugeot vous offre 3 mois de loyer pour tout achat d'un nouvel utilitaire en crédit bail. C'est le moment d'en profiter.
Voir conditions en point de vente et sur Peugeot.fr.
Yeah, yeah, wow. Merci ma maman chérie, merci maman, merci. C'est comme ça que je te remercie, je t'aime ma maman, merci.
Menuhin Junior, 4 euros, un jour vos enfants vous remercieront. Et en ce moment, 3 gourdes à collectionner chez Burger King. Menuhin Junior avec jouets à 4 euros, prix conseillé. Remise d'une gourde pour l'achat d'une formule Glouglou, stock limité. Plus d'infos sur burgerking.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Burger King!
RTL Matin.
8h32 sur RTL, l'essentiel de l'actualité, Aude Vernuccio.
À Paris, le Moulin Rouge a perdu ses ailes. Elles se sont effondrées cette nuit sans faire de blessés, d'après les pompiers. On ignore encore les causes de cet incident. Un périmètre de sécurité a été mis en place à Paris, dans le quartier Pigalle. Kenji Girac maintient sa version des faits, celle d'un accident domestique après sa blessure par balle au thorax. D'après les informations de RTL, les premières constatations ne contredisent pas cette thèse de l'accident. Et puis à 2 mois des élections européennes, Emmanuel Macron met les 2 pieds dans la campagne. Le chef de l'État est attendu à la Sorbonne ce matin à 11h pour un discours sur l'Europe puissance, dans la lignée de celui prononcé en 2017.
Merci Aude Vernuccio. Il est 8h33.
RTL. Le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
Exceptionnellement, parce qu'il faut libérer Omar Sy, Philippe, on change un petit peu l'ordre. Nous recevions tout à l'heure à 7h40, Philippe, le professeur Bernard Sablonnière pour parler des super centenaires, ceux qui ont plus de 110 ans.
Ah oui, Omar Sy n'a pas écouté, mais tout à l'heure à 7h40, nous on parlait des super centenaires.
J'étais pas là, non.
Ah ouais, ça va Yves, l'invité de 8h20, ça va, tranquille?
Ben oui.
Vous gardez les bons invités et nous, ok. non mais... J'explique, à 8h40, donc on a parlé avec un type charmant, au demeurant, super. Mais qui était au téléphone depuis Lille. Oui. Donc on a parlé des gens de plus de 110 ans, voilà. En fait, on nous prend pour des infirmières en EHPAD avec Amandine. On parle de papy et mamie qui se font dessus. Non, mais c'est pas grave. En plus, moi j'arrive de Marrakech, je vois qu'il y a une effervescence. Ouais. Je me dis, tiens, les gens sont contents que je revienne, je vois la nouvelle direction. Je vois les filles de la station, même les filles du soir, elles sont là, elles sont douchées, machin. J'ai cru que c'était pour moi. Et en fait, c'est parce qu'il y a Omar Sy. Voilà. Donc, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Puis, entre nous, c'est quoi Omar Sy ? Une star internationale, ok, vous marquez un point. Bon, il est talentueux, il est brillant, il a une femme belle et engagée, il est beau gosse, il vit à Los Angeles. Finalement, heureusement qu'il n'est pas en face de moi à 7h40, je l'aurais défoncé.
Ah bah oui, avec votre courage.
Non, parce que c'est à cause de mecs comme lui qu'on voit qu'on a des vies de merde. Sinon, on ne s'en rendrait pas compte. Bref, le sujet de tout à l'heure, c'était les super centenaires. Il y a en France... 31 000 super centenaires. Alors, on dit toujours environ. Centenaires. 31 000 centenaires et on rajoute toujours environ. Et pourquoi ? Parce que c'est fragile. Ah là 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 là, 29 999. Yvette vient de rater une marche en rentrant à la pharmacie à Neuilly, ironie du sort. Ah, une fausse 29 998, une fausse route de Lucien. Hein, on lui a dit 100 fois d'arrêter les Chris Pauls à Lucien. Donc, 29 998 centenaires, c'est presque la population d'une petite ville, finalement. On devrait tous les mettre dans le même village.
C'est une idée.
Faire un mini-Nice, en fait, et puis en pleine campagne. Puis on irait les voir en safari, comme ça, puis on dirait... Ah, le bon air de la campagne, on sent les vaches. Je me dis, non, ça c'est Mamie Yvonne qui a un petit souci.
Horrible.
Alors, vous avez noté sur les super centenaires, sur les centenaires qui meurent, 39 décès, 38 femmes,
dans les 39 super centenaires, il y a 38 femmes.
Oui, absolument.
Et
c'est nous les hommes qui mourrons les premiers.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Comme quoi,
c'était mal dit, si je peux me permettre.
Mal...
Oui.
Merci d'intervenir.
Non, mais l'égalité homme-femme, c'est quand ça vous arrange. Voilà. Alors, le record de longévité, c'est toujours Jeanne Calment, et c'est 122 ans et 164 jours. C'était en fait une année de trop, car sur la dernière année, elle s'est dit d'un coup « Tiens, je vais concurrencer Britney Spears et Beyoncé !» Et elle a fait ça.
La parole.
Jeanne Calment.
Ah oui.
Alors elle s'en foutait, elle était sourde. Et nous, on a entendu la chanson Jeanne. Et on en souffre encore. On a le temps pas.
C'est moche.
Si on a le temps.
Mais non,
tout autre chose. Oui. Depuis le 7 octobre, l'antisémitisme, et on en parle souvent, ne cesse de monter. Dans les Hauts-de-Seine, un homme est soupçonné d'avoir menacé de mort une femme de confession juive pour, je cite, venger la Palestine.
Eh oui, c'est l'effet papillon de l'horreur. On rappelle que l'antisémitisme est un délit qui pousse au pire crime. Cela dit, attention, pas d'amalgame, restons calmes et mesurés. Tout n'est pas antisémite et on va s'entraîner avec un jeu léger. Antisémite, pas antisémite. Oui.
À 11. Antisémite ?
Dites une phrase et vous me dites si elle est antisémite ou pas antisémite.
Très peur.
Dites donc, 1000 balles de régime pour... un régime à la con, le docteur Cohen. Et malgré tout, j'ai quand même un gros cul. Est-ce que c'est antisémite?
Non, c'est pas antisémite.
C'est pas antisémite, ça n'est pas antisémite.
C'est objectif.
Détester Raphaël Glucksmann parce qu'il est beau, intelligent et que toutes les femmes sont amoureuses de lui. Est-ce que c'est antisémite?
Non.
Se balader à la FNAC et dire « Tiens, toujours pas d'album depuis 2001, c'est un sacré branleur Jean-Jacques Goldman. » C'est pas antisémite, c'est parce qu'il nous manque Jean-Jacques. Dire « Dis donc Gérard Miller, il se fait pas chier, 100 euros la consulte, mais derrière, c'est pas lui qui paye le test de grossesse.
Non, alors, c'est assez lucide. C'est lucide. On commence à frôler une petite forme
mais
d'antisémitisme.
Ça n'est pas. Et la toute dernière, dire, Gilles William Gonladen, il est peut-être brillant, mais il a quand même la voix de Donald Duck.
Non.
Est-ce que c'est antisémite? Bah
non, c'est pas antisémite.
Non, c'est avoir Louis Fine. Nous sommes rassurés, nous ne sommes pas antisémites.
Merci d'être resté avec nous. Omar Sy, Elsa Vigoureux, Viens, on se parle. Votre livre vient de paraître aux éditions Albin Michel. On était très heureux de vous accueillir ce matin.
Merci beaucoup.
À tout bientôt.
À bientôt.
Ah oui, dans un instant, météo, télévision, enfin bon, tout le tout team.
Et voilà. Puis notre docteur.
RTL Matin, 7h, 9h.
À chaque saison, son coup de cœur littéraire. Accueillons tout de suite sur RTL Karen Ponte, venue nous présenter son roman « Prendre la vie comme elle vient », paru aux éditions Pocket. Bonjour Karen.
Bonjour Isabelle.
Alice et Aymeric, les héros de votre roman, forment un couple fusionnel depuis 19 ans. Ensemble, ils sont heureux, mais ils n'ont jamais pu avoir d'enfants. Quel événement va chambouler la vie de vos héros, Karen Ponte ?
Alors, un événement assez tragique, hein, puisque Aymeric va avoir un grave accident de voiture. Et c'est vrai que Alice, qui le matin même se pose cette question, est-ce que notre vie est pas un petit peu monotone, routinière, eh bien là, sa vie va voler en éclats en fait, et rien ne sera plus pareil.
Justement, dans ce laps de temps où Aymeric est dans le coma, vous menez votre lecteur vers trois pistes de dénouement possible. Pourquoi avez-vous choisi de construire ainsi votre narration ?
Je crois beaucoup, moi, aux trajets divergents en fait. Et là, dans ce genre de situation, eh bien évidemment que les hypothèses qui peuvent se produire sont multiples, et donc ça m'intéressait d'aller explorer ça.
Dans votre roman, vous abordez avec délicatesse des sujets sensibles, comme la maternité, l'infidélité ou le deuil. Quel message voulez-vous transmettre à vos lectrices en abordant ces thématiques ?
Moi, je trouve qu'on est dans une société où il faut voir toujours 4 mois devant, et je trouve que le présent, en fait, on devrait s'accrocher plus à ça, quoi.
Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions, Karen.
Merci, Isabelle.
Pour vous procurer, vous aussi, Prendre la vie comme elle vient, de Karen Ponte, en format pocket, rendez-vous tout de suite dans votre librairie. Bonne lecture et bonne journée sur RTL.
RTL.
Carrefour. Quand vous me dites « La 1664 est moelleuse, complexe, avec des notes florales et une fine amertume », oh, je pourrais en parler pendant des heures. Eh bien, je vous réponds qu'avec 30% de remise immédiate, le pack de 28 bières blondes 1664 de 25 centilitres est à 12,88€ seulement au lieu de 18,40€. Et c'est jusqu'à lundi chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour, soit 1,84€ le litre. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Les saisons, c'est pas facile à suivre. Alors pour savoir si c'est le bon moment pour vos fruits et légumes, le plus simple, c'est de venir chez Biocoop. Si c'est en rayon, c'est que c'est la saison. Parce que consommer de saison, c'est respecter la nature. Chez Biocoop, vous ne trouverez que des fruits et légumes 100% bio et 100% de saison.
Et du 25 au 29 avril, les radis en bottes sont au prix engagé de 3€ le lot de 2.
Biocoop, du bon sens et rien d'autre.
Opération valable dans les magasins Biocoop participants. Les radis sont à 1,75€ la botte.
Amandine Bégaud, Yves Calvi. RTL Matin jusqu'à 9h.
Il est 8h40, mais bon, on va faire une petite météo à 7 jours, même si je crains de connaître un peu le propos, oui.
Donc on a dit aujourd'hui beaucoup de nuages, quelques pluies, principalement entre le Massif central et les Pyrénées. C'est un peu plus dégagé près de la Méditerranée, mais avec du Mistral et de la Tramontane. Les températures qui remontent un peu, mais toujours pas de saison. 11 à 14 degrés dans le nord, 14 à 17 dans le sud. Demain, pas mieux, voire pire, parce que demain, non seulement il y aura des nuages, mais des pluies un peu plus fréquentes, y compris dans la moitié nord. Toujours un petit peu de neige en montagne, notamment sur les Alpes, cette fois-ci à partir de 1800 mètres. Les nuages arriveront également sur les portes de la Méditerranée, avec là ici un risque de pluie, parce que le vent va commencer à faiblir, hein. Il y aura moins de Mistral et de Tramontane, et puis ça donne le ton de ce week-end, hein, où samedi on attend une nouvelle perturbation très active, nuages, pluie, vent, notamment dans la moitié ouest, peut-être une petite accalmie dans les régions de l'est, mais dimanche sera l'inverse, les pluies plutôt dans l'est, les éclaircies plutôt dans les régions de l'ouest, le tout avec des températures qui vont remonter, 15 à 17 degrés dans la moitié nord, c'est presque de saison, hein. Faut pas s'emballer non plus,
non.
C'est pas la... Ouais, voilà, hein. Avec les nuages et la pluie.
En avril, ne te découvre pas d'un fil.
Exactement. Hein.
Isabelle parle des sunglasses. C'est quand les sunglasses ?
Non, c'est au mois de mai. C'est vers le 10 mai. Donc,
jusqu'à.
Non, ça ne veut rien dire.
Ah,
non, on va pas bien. Non plus. Hein. Non, rajoutons pas. Avec pour le début de semaine, eh ben, la poursuite de ce temps instable. En fait, qu'est-ce qu'on attend ? C'est l'anticyclone des Açores.
Oui.
Pour l'instant, il n'est pas en vue.
Où ?
Il est même très loin. Il est à sa place. Il est sur les Açores, justement. Alors qu'il faudrait qu'il vienne jusqu'à nous. Et donc, pour l'instant, il laisse passer les perturbations. Donc
l'anticyclone des Açores est aux Açores.
Oui.
Appelez-le.
Voilà, quelque chose, mon vieux.
Bah, c'est ça. C'est ce qu'on me demande tout le temps maintenant.
Merci, Louis Baudin.
Bonjour, Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour, tout le monde.
Et quel est votre choix de télé pour aujourd'hui ?
M6, Pékin Express. Bah, ils avaient disparu à cause du foot sur la 6, nos Pékins moyens. Bah, les revoilà au Vietnam, où ils se découvrent encore des muscles et des neurones. Comme dit le proverbe, c'est quand le poisson est dans le filet qu'il commence à réfléchir. Restent 3 binômes, les copines corses, les petits suisses, des crèmes, le coiffeur et sa cliente, mais c'est pour tous que ça tient un cheveu. Ce soir, les productions les fait encore marcher à tout point de vue. Les montagnes du Vietnam, c'est surtout des montagnes russes émotionnellement. Imaginez, ils doivent d'abord grimper 3 km, c'est raide, hein, en portant 35 kg de riz dans des sacs totalement percés.
Épouvantable.
Justement pour eux, assez riz. C'est ensuite pire avec le Nemcon, un sport consistant à lancer un pochon de riz dans une sorte de filet à papillons planté à 6 mètres de haut, 25 mètres plus loin, le lanceur, ben voyant, ayant en plus les yeux bandés. Certes, comme dit Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais pour eux, ça joue franchement plus sur les nerfs que dans le filet. Je rappelle en conclusion, histoire de me la péter, que ce jeu, je l'ai fait. Enfin, je l'ai commencé, c'est lui qui m'a achevé.
On ah oui, vous n'aviez pas fini. 21h10, Pékin Express, c'est donc ce soir sur M6. Merci beaucoup Isabelle.
Il est 8h43, bonjour Dr Jimmy Mohamed.
Bonjour Yves, bonjour Amandine.
La consommation de certains additifs alimentaires émulsifiants augmenterait le risque de devenir diabétique, si l'on en croit les chercheurs de l'INSERM. Mais alors d'abord, rappelez-nous ce que sont les émulsifiants et où on les trouve exactement.
Alors les émulsifiants sont parmi les additifs les plus fréquemment utilisés par l'industrie agroalimentaire et ils sont utilisés pour améliorer la texture d'un produit tout en prolongeant leur durée de conservation. Et ces émulsifiants, on va les retrouver dans les aliments ultra transformés industriels comme les yaourts, les gâteaux, les barres chocolatées, les pains industriels, les biscottes, les margarines ou encore les plats préparés.
Mais alors ces additifs, ils avaient déjà été pointés du doigt par les chercheurs il y a quelques mois. Hein.
Oui, je vous en avais parlé, bien que la consommation de ces additifs était associée à une augmentation du risque de développer certains cancers. Et dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont suivi près de 100 000 Français pendant un peu moins de 15 ans, qu'ils ont interrogés régulièrement pour évaluer leur consommation alimentaire, tout en faisant des dosages en laboratoire pour calculer leur exposition chronique à ces émulsifiants.
Qu'ont-ils découvert ?
Que la consommation de ces produits était associée à une augmentation du risque de devenir diabétique, indépendamment de votre âge, de vos antécédents dans la famille de diabète, de votre poids, etc. Et c'est la première fois qu'on décrit aussi bien ce qu'on appelle un effet dose. Plus vous ingurgitez ces produits, plus vous augmentez le risque de devenir diabétique. Le risque augmente de 3 à 15% par palier. En clair, c'est vraiment la dose qui fait le poison.
Mais comment explique-t-on cela ?
Les chercheurs sont clairs, il faudra d'autres études pour confirmer ces résultats, mais l'hypothèse qui revient quasiment systématiquement, c'est la perturbation de votre microbiote, ce qu'on appelle la flore intestinale. Pour faire simple, ces additifs vont favoriser l'inflammation, tout en perturbant votre métabolisme, ce qui va aboutir à la production d'une insuline de moins bonne qualité. Et on va parler d'insulinorésistance qui va conduire ensuite au diabète.
Bah alors du coup, quels sont les additifs, on va dire, incriminés?
C'est tout là le problème, car ils sont vraiment très nombreux.
Bah
vous
oui.
savez ce qu'on appelle les carrageenans ou encore E407, les phosphates tripotassiques E340, les gommes guar ou E412, le E415, le citrate de sodium ou encore le E331. Alors, vous n'allez pas retenir la liste de tous ces additifs.
C'est tous les E en fait.
C'est beaucoup de E, mais il faut dire quand même, on nous met vraiment beaucoup de cochonneries dans nos aliments qu'on donne aussi à nos enfants. Donc le conseil est simple, jetez un œil systématiquement à la liste des ingrédients qui composent un produit. Si vous en avez plus de 5, la probabilité qu'il s'agisse d'un produit ultra transformé de 75%. Second conseil, si vous n'avez ne serait-ce qu'un ingrédient que vous ne pouvez pas acheter dans un supermarché, là encore, passez votre chemin. N'oubliez pas que votre alimentation, elle devrait être basée sur des produits les plus simples possibles, comme les aliments qu'on peut tout simplement trouver au marché.
Et tout à l'heure, on parlait des super centenaires, ceux qui ont plus de 110 ans avec le professeur Sablonnière, et il nous disait que l'alimentation, ça joue dans 25% de la longévité.
Bah oui.
Vous nous le dites tous les jours,
nous
docteur.
Nous sommes ce que nous mangeons.
Exactement.
Et bah, du coup, direction le sud-ouest, bonjour Cyril.
C'est pour ça qu'on va se faire une bonne piperade sans additifs, ça rien, que du plaisir dans le sud-ouest. Alors on va faire...
J'adore ça la piperade.
Ah ouais, moi aussi c'est tellement bon. Alors là, on commence à avoir les beaux légumes, donc on va faire chauffer dans une cocotte de l'huile d'olive. On va mettre l'oignon que l'on caramélise, on ajoute les tomates, on met... ensuite on va ajouter les cubes de tomates qu'on a coupées et avec les oignons, on va ajouter l'ail, on va mettre les poivrons, on va faire mijoter tout ça longuement dans une cocotte fermée, bien entendu piment d'Espelette à fond. Et à côté, on va prendre du jambon basque que l'on va tailler en tranches, on le demande à notre boucher. On va le mettre à la poêle, sans rien, sans matière grasse. Le gras va sortir, il va caraméliser et devenir croquant. Et on l'ajoutera au dernier moment dans la piperade. Quand la piperade est presque cuite, on va ajouter, on va battre 2 œufs. En omelette qu'on va verser à l'intérieur de la piperade. On va mélanger tout ça pour lier à l'œuf et on le dépose dans une belle cassolette avec par-dessus encore un peu de piment d'Espelette. On ajoute le jambon basque bien croustillant.
Ah oui.
Et on plonge la cuillère à l'intérieur. Et c'est tout le Pays Basque dans une assiette.
Je voulais vous demander quelques petites précisions quand même. Alors, on a bien compris que vous proposiez d'utiliser des tomates fraîches. J'aurais tendance à avoir envie de mettre un petit peu de tomates en boîte, moi, pour amener un peu de douceur, vous voyez ce que je veux dire.
On peut rajouter, sinon on met vraiment de la tomate fraîche.
Oui.
Et on ajoute de l'eau pour les laisser mijoter. Donc en fait, plus on va laisser mijoter la tomate, plus elle va rendre de l'eau,
bah oui.
Et plus on va avoir quelque chose de lié, puisque avec la réduction de la chaleur, vous allez avoir une épiperade qui est bien liée, et ensuite on ajoute les œufs au dernier moment.
Et on est d'accord, le jambon basque, on le coupe en petites lanières, hein.
Exactement.
En pour fait, le réduire.
Il y a deux
choses. Après.
Soit on le coupe, soit on le cuit entier dans la poêle, et ensuite on les frite quand il est bien croustillant.
Bon. C'est pas mal aussi, ça.
J'ai rêvé, vous avez parlé aussi de quelques amandes toastées tout à l'heure.
Oui, on peut déposer aussi quelques amandes par-dessus pour apporter un peu plus de croquant. Mais c'est vrai que la piperade, c'est bon tellement naturellement comme ça que j'en ai envie.
Ça vous valide, docteur ? On est
Regardez-moi, j'ai mon Julien Courbet qui chante. Bah,
et vous savez pourquoi il chante ?
Bah dites-nous.
Bah, parce que samedi après-midi, il va aller voir Bayonne-Bordeaux.
Ah, Bayonne-Bordeaux ?
Bah, évidemment, ça, je vais aller là-bas. Oui. Ah, ça, c'est un super match, imaginez, le derby Bayonne-Bordeaux.
Oui,
là-bas,
je ne vous demande pas qui vous soutenez.
Bah, les deux, figurez-vous. Mais franchement, parce que au football, je suis plutôt Bordeaux, mais j'adore le Pays Basque, donc je vais être bien embêté, quoi. Mais je mangerai la piperade que nous a conseillé.
Quoi qu'il arrive, nous sommes bien d'accord.
Alors, très rapidement, déjà, qu'est-ce que l'émission pour ceux qui ne la connaissent pas?
Ça peut vous arriver, l'amateurisme poussé au niveau professionnel.
Et notamment le cas d'Esther qui attend son appartement neuf depuis maintenant 4 ans. Donc on aurait dû lui livrer en 2020, et on est en 2024 et elle, la pauvre, il faut qu'elle se reloge pendant ce temps-là. À tout à l'heure, mes amis.
À tout à l'heure, Julien. Allez, allez. Là-dessus, on ne peut que retrouver Laurent, Gérard et Jade dans quelques instants.
A tout de suite. On est
tous là, les dégâts. RTL Matin, Yves Calvi, Amandine Bégaud.
Grand frais.
Ouais, Francky, bon, je vais pas pouvoir venir te chercher à la gare, hein. Là, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont une burrata ultra crémeuse, parfait pour ma salade de tomates. Donc, attends-moi un peu, t'inquiète, j'en ai pour 4 heures max.
Chez Grand Frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la burrata dépouille de 150 grammes est à seulement 2,49€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais!
Le meilleur marché.
Soit 16,60€ le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, bougez plus.
À tous ceux qui disent « À table !» juste avant que le repas soit prêt. À ceux qui mettent les assiettes, comme ça, ça fera venir les autres.
« À table !»
À ceux qui commencent à servir, parce que de toute façon, il faut tout faire soi-même dans cette maison.
« À table !»
Et à ceux qui finissent par couper le Wi-Fi.
« À table !»
Jusqu'à samedi, Intermarché propose la côte de bœuf origine France à seulement 14,90€ le kilo.
Oh, « ça va, c'est bon, j'arrive.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Viande bovine, côte 3 étoiles à griller.
7h-9h, RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
En ce jeudi matin, j'accueille Laurent Gérard.
Bonjour.
Et Mademoiselle Jade.
Oui, Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. On commence comme chaque jour avec le rappel des titres, présenté aujourd'hui par notre ami Philippe Bouvard.
Bonjour.
Bonjour Philippe.
Société, nous célébrerons demain la journée internationale de la visibilité lesbienne avec plusieurs happenings prévus partout en France.
Et notamment avec Muriel Robin qui va encore chouiner en nous expliquant que c'est parce qu'elle est lesbienne qu'elle n'a pas le rôle au cinéma. Une journée lesbienne, lesbien raisonnable. Oh, 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 oh.
Culture, le nouveau roman de Marlène Schiappa s'appellera Scandale et sortira le 5 juin. Il racontera l'histoire d'amour entre une femme politique et un basketteur.
Marlène Schiappa se prendra-t-elle une main au panier par son basketteur? Le suspense est à son comble. Oh, oh, oh.
Et enfin, culture toujours, on a fêté il y a quelques jours le 50e anniversaire de la mort de Marcel Pagnol.
Oui, hein, sauf qu'avec les nouvelles normes sociales, on ne dit plus le château de ma mère et la gloire de mon père, mais le château de mon parent 1 et la gloire de mon parent 2. Oh,
oh, oh, oh. Oui, c'est sûr que ça n'a ni queue ni tête.
Comme ma femme.
Oh, oh, oh.
Mais non.
Je poursuis. Oui. Avec seulement 42% de la population se déclarant optimiste pour l'avenir, les Français sont le peuple le plus pessimiste d'Europe, selon le dernier Eurobaromètre du Parlement européen. Bonjour Michel Houellebecq.
Chaud.
Vous qui êtes un champion national du pessimisme, comment expliquez-vous ce triste record ?
C'est pas un triste record, c'est un record joyeux, parce qu'en France, on a le pessimisme joyeux.
Ah.
Ben, moi, par exemple, je n'ai que des amis très pessimistes, et ensemble, on rigole beaucoup.
Oui.
Pas plus tard qu'hier, j'ai été invité à une soirée à thème chez Alain Finkielkraut et on s'est bien amusé.
Ah oui, une soirée à thème.
Oui, il fallait venir déguisé en transgenre. J'ai donc enfilé une robe et une perruque, et ce qui a fait mourir de rire Pascal Pro, qui m'a dit que je ressemblais à Françoise Sagan.
Ah bon, il était là aussi, Pascal ?
Ouais, il était déguisé en Sandrine Rousseau avec deux boucles d'oreilles en rognon de veau pour symboliser les couilles de son mari déconstruit. Qu'est-ce qu'on a ri avec ça ?
Ah bah oui, j'imagine. Et il y avait qui d'autre ?
Charlotte Dornelas, qui s'était déguisée en Bernard Pivot. Pour nous faire une dictée de pivot en écriture inclusive, c'est Michel Sardou qui a gagné.
Ben dites non. Mais Alain Finkielkraut, ne me dites pas qu'il était déguisé lui aussi.
Si.
Ah.
Il avait piqué une robe de sa femme pour se déguiser en Anne Hidalgo et à la fin de la soirée, il avait un peu trop bu et il s'est mis à faire des trous dans le parquet pour construire une piste cyclable. Ça a fait un boucan d'enfer. Les voisins ont appelé la police et la soirée s'est terminée. C'est bien amusé.
On revient tout de suite après cette petite page de pub.
C'est pas bon.
Tofu.
Graines germées.
Steak de boulgour.
Yaourt de soja.
Saucisse sans viande.
Jambon sans cochon.
Rôti de veau sans veau.
Fromage sans lait.
Foie gras sans foie gras.
Dégueulasse.
Fadasse.
Tiédasse.
Filasse.
Semelle de godasse.
Les produits véganes, il y en a pour tous les dégoûts.
Ouh, c'est pas bon.
Vous savez, à la demande de son président Laurent Fabius, le Conseil constitutionnel sillonne la France pour aller à la rencontre de nos concitoyens dans le cadre de séances de délibération publique. Nous avions laissé l'autobus du Conseil constitutionnel en panne près de Vierzon. Qu'en est-il de son périple ?
Conscons explore la France.
Bonjour Alain Juppé.
Salut les Gouines de province et d'ailleurs, en repos.
Alors vous poursuivez votre tournée de séances publiques délocalisées en direction du sud.
Affirmatif, après notre arrêt forcé près de Vierzon, vous vous souvenez, pour cause de crevaison, nous avons repris la route direction Clermont-Ferrand. Séance de questions en public à la salle polyvalente Roger Quillot.
Oui.
C'était le maire de Clermont.
Mais oui, oui,
c'est communiste. Mais au lieu de rester sur l'A71, on a pris les petites routes et on a fait un crochet pour une dégustation de Saint-Pourçain. Deux ou trois canons chacun à 9h du mat, je peux vous dire que ça chantait fort dans le bus quand on est reparti. Il y a Jacques Mézard et Michel Pinault, les deux rigolos de la bande, qui ont pris le micro et qui nous ont fait tout le répertoire des chansons de salle de garde. La petite Huguette, Des Profondis Morpionibus, L'Invalide à la Pine de Bois. Le chauffeur du car se marrait tellement qu'il a failli rentrer dans un platane.
Rappelons que le Saint-Pourçain est à consommer avec modération.
Voilà. Pourquoi ? Bref, après on a pris par Saint-Didier et la forêt et on a fait un rapide crochet par Vichy parce que Corinne Luquiens voulait rapporter des pastilles Vichy à sa cousine. Et ensuite on a fait la visite du musée de la constipation à Châtel-Guyon, vous savez, station thermale renommée pour ses eaux aux vertus laxatives. Ces deux zigotos de Mézard et Pinault n'ont pas pu s'empêcher de coller un panneau poussé fort sur la porte d'entrée. Porte d'entrée du musée. Mais heureusement, c'est pas fait gauler. Ils sont intenables, ceux-là. Après la visite, on a dégusté l'eau minérale locale et le maire nous a offert à chacun une poire à lavement aux couleurs de sa ville.
Conseil
constitutionnel.
Oui.
Après, on a fait FISAC, hein, on avait un rendez-vous à Thiers, mais à cause de l'eau de Châtel-Guyon qu'on avait bu, le bus a dû s'arrêter tous les quarts d'heure pour qu'on se soulage. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis en plus, je vais vous dire, ça l'a fouté mal d'aller visiter l'usine Michelin avec des traces de pneus.
Oui, oui, bon, voilà. Parlez-nous plutôt de votre étape suivante. Voilà.
Donc, on a fait la pause casse-croûte à Thiers, à la capitale du couteau. On a eu droit à une démonstration vente et le type avait un tel bagout qu'on a tous acheté des coffrets de 86 couteaux. Qualité France, à prix cassé. Couteau à viande, couteau à beurre, couteau à huître, couteau à pain, couteau à pamplemousse. Je ne vois pas trop où on va les ranger.
Non.
On trouvera bien quelqu'un qui les offre pour Noël.
Je n'en doute pas. Une journée bien chargée, donc, avant votre séance publique, à Clermont-Ferrand.
Voilà. Attendez, allez pas plus vite que la musique. Au programme, on avait aussi la visite de Vulcania, le parc d'attractions sur les volcans. Bien hommage sûr. À Giscard, qui a longtemps roupillé au Conscons avant nous.
Oui, très beau parc, en effet, Vulcania. Vous avez fait quelques attractions ?
On a fait le réveil des gens d'Auvergne. Oui. C'est ce qu'on appelle un film interactif et dynamique, avec un genre d'Aroun Taziev qui cause. C'est comme une salle de cinéma normale, sauf que les sièges se mettent à vibrer quand les gens d'Auvergne se réveillent. Personnellement, je trouve que ça fait mal au cul, ces sièges qui remuent. Mais ces dames ont eu l'air d'apprécier les vibrations parce qu'elles poussaient des petits cris ravis. Et toute la salle s'est bien marrée quand Michel Pinault et Jacques Mézard ont dit tout fort qu'ils n'étaient pas comme les volcans de la chaîne des Puits parce qu'eux, ils crachaient encore de la lave.
Passons. Et après Vulcania, donc, direction Clermont-Ferrand, enfin, pour la séance publique du Conseil constitutionnel.
C'est ça, sauf que Fabius, qui est un peu pince sur les bords, a voulu passer d'abord au musée Michelin pour essayer de se faire rembourser le pneu du bus qui avait crevé vers Vierzon.
Et il a obtenu gain de cause.
Pensez-vous, il est reparti avec un porte-clés du bibendum. Mais je vous raconterai la suite au prochain numéro. Direction Lyon.
Alain Chanteur.
Écoutez, merci pour ces très bons moments passés avec le Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier ministre.
Voilà.
Et on vous retrouve l'un et l'autre, bien entendu, sur le site et l'application RTL. Julien, on a un petit message pour vous.
Allez-y.
Tu crois